Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse à l'avancée de nos connaissances depuis une quarantaine d'années en matière de neurosciences. À l'avancée de nos connaissances, mais aussi à tout ce qui est encore inexpliqué aujourd'hui et nous semble bien curieux. Alors commençons par une définition, les neurosciences. Elles regroupent toutes les sciences qui s'intéressent au cerveau. Elles réunissent des biologistes, des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des médecins et des ingénieurs qui, ensemble, veulent étudier le cerveau. Comme le dit notre invité du jour, le professeur Jean Rossier, il y a 40 ans, si l'on savait que le cerveau humain était constitué de 100 milliards de neurones, que chacun d'eux communiquait en moyenne avec 10 000 autres, en construisant des contacts particuliers appelés les synapses, on ignorait en revanche tous des mécanismes de ces communications. Les neurones apparaissaient comme des câbles électriques, tous de couleurs identiques, on supposait juste que ces câbles véhiculaient deux messages importants, l'inhibition ou l'excitation. Jean Rossier, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur et chef de service au département de biologie à l'École supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, autrement dit l'ESPCI. Vous êtes membre de l'Académie des sciences. Vos thèmes de recherche portent sur les transmissions synaptiques, la chimie des protéines et les méthodes analytiques. Et actuellement, vous vous penchez sur la plasticité du système nerveux central. Pour en savoir plus sur vos travaux, nous vous invitons nos auditeurs à écouter l'émission En habit vert qui vous est consacrée, émission que j'ai eu le plaisir de faire en votre compagnie. Mais pour l'heure, dans cette émission Éclairage, nous allons aborder de manière ludique les progrès qui ont été faits sur la connaissance de notre cerveau et les nombreuses colles qu'il pose encore à nos chercheurs. Jean Rossier, vous dites « si je ne suis pas devenu neurologue praticien, c'est en partie parce qu'à l'époque, la richesse du diagnostic basé sur la sémiologie était souvent en porte-à-faux avec la pauvreté des interventions thérapeutiques possibles. » Alors depuis, les choses ont évolué. Alors si c'était à refaire, seriez-vous devenu neurologue au lieu de neuroscientifique, Jean Rossier ?
Je crois que oui. Je crois que la neurologie que j'ai connue il y a 40 ans, donc quand j'ai fait mon internat en médecine, était encore une discipline qui était très fière. Et c'était très, très honorable de devenir neurologue parce qu'on faisait un diagnostic sur la sémiologie. Vous aviez la sémiologie, c'est quoi ? C'est les symptômes des maladies. Vous aviez quelqu'un qui rentrait dans votre bureau, qui marchait à petits pas, qui avait des peines à vous serrer la main, et vous arriviez à faire un diagnostic. Il était atteint d'une maladie de Parkinson, par exemple. Donc tout ça, c'était basé sur l'observation, et l'observation est essentielle en médecine. Mais pour aller beaucoup plus loin, pour savoir exactement ce qui se passait dans son cerveau et dans le cerveau plus profond, c'était vraiment impossible. On n'avait aucune des techniques actuelles. L'électroencéphalographie, elle existait, mais ça ne marchait pas. Ça, c'était pas extraordinairement formidable. Aujourd'hui, avec l'imagerie médicale qui a fait tellement de progrès, on peut voir le cerveau en action et je vais vous raconter ça un peu plus tout à l'heure.
Alors vous, du coup, vous êtes intéressé surtout à l'amélioration des traitements des maladies neurologiques et psychiatriques et c'est ce que vous avez fait notamment avec les bêta-carbolines.
Oui, je me suis intéressé à la neuropharmacologie, donc les médicaments du cerveau. Comment est-ce qu'on pouvait les améliorer ? Les médicaments du cerveau, c'était une découverte, je dirais, du début des années 50, où à ce moment, on a découvert ce qu'on appelait les neuroleptiques. Les hôpitaux psychiatriques, où il y avait beaucoup de gens tout à fait agités, et bien avec ces nouveaux médicaments, on a pu avoir des hôpitaux psychiatriques qui étaient beaucoup plus calmes. Il faut dire que pour quelqu'un qui a un syndrome psychotique, qui entend des voix, des hallucinations, quelqu'un qui, vraiment, dont la vie devient impossible, parce qu'il a toujours cette voix derrière lui qui lui dit de faire des choses ou pas faire des choses, et bien s'il prend ces médicaments, qu'on appelle donc des antipsychotiques, eh bien, il n'entendra plus les voix. Donc, il n'est pas guéri, mais le syndrome, les choses les plus désagréables, entendre ses voix, d'avoir toujours quelqu'un derrière soi, a complètement disparu. Donc, ça a été une très grande découverte dans les années 50. Et depuis, il y a eu beaucoup d'autres découvertes en psychopharmacologie, où on a des excellents antidépresseurs. Mais aujourd'hui, après 40 ans, on est un petit peu sur notre faim et on voudrait, par exemple, pouvoir guérir la maladie d'Alzheimer. Et pour l'instant, on ne peut pas.
Et donc, les bêta-carbolines contribuent à ces recherches ?
Les bêta-carbolines, c'était pas un médicament parce qu'il n'est jamais arrivé au stade de médicament, mais c'était quelque chose qui permettait d'augmenter les performances d'animaux, mais également de patients dans des tâches d'apprentissage et de mémoire. Il y avait quand même le gros problème des médicaments et de mettre sur pied des médicaments, c'est que soit des médicaments ne soient pas toxiques. Et ça, c'est très, très, très difficile. Et donc, les bêta-carbolines, le problème, si elles amélioraient les performances et des patients qui avaient été traités, eh bien, malheureusement, ça leur donnait beaucoup d'angoisse et avec des doses un peu plus fortes, parfois des crises d'épilepsie. Donc, il était exclu qu'on puisse mettre ce genre de médicaments sur le marché. Mais ça a développé d'autres types de médicaments qui, peut-être un jour, seront utilisés pour les déficits cognitifs des patients dans la maladie d'Alzheimer, par exemple.
Alors, en attendant, intéressons-nous, on va dire, aux découvertes récentes, notamment la plasticité cérébrale, sujet sur lequel vous travaillez actuellement, je le disais en présentant cette émission. Depuis quand sait-on que le cerveau va se modeler en fonction des connaissances que nous avons, que nous entretenons ?
Mais pendant longtemps, on pensait qu'une fois que le cerveau était fait, il ne bougeait plus. On pensait que c'était comme un ordinateur en quelque sorte, un micro-ordinateur ou un plus gros ordinateur. Tous les circuits existaient et qui n'allaient pas changer. Et c'était vraiment immuable. Et on savait que quand les gens avaient des accidents vasculaires, par exemple, que la récupération allait être très lente. On sait aussi qu'il est plus facile d'apprendre une langue lorsqu'on a 5 ans que lorsqu'on en a 45. Donc on subodorait que le cerveau ne changeait pas. Et en fait, on s'est rendu compte de plus en plus que le cerveau change tous les jours. Et je vous montrerai quelques exemples de cela tout à l'heure. Mais le cerveau est très plastique. Et ça donne évidemment beaucoup d'espoir à tous les gens qui ont eu des accidents vasculaires, par exemple, qui sont paralysés d'un côté un jour, les hémiplégiques, et puis qui petit à petit vont voir leurs performances motrices qui vont augmenter au cours de l'apprentissage, de l'entraînement avec leur kinésiste, par exemple.
Mais vous le disiez à l'instant, suivant que l'on est un enfant ou une personne âgée, on n'apprend pas les choses aussi facilement, ou en tout cas on ne les retient peut-être pas aussi facilement.
Oui, il y a des moments où la façon de changer le cerveau est plus plastique, c'est sûr. Je pense que pour finir, on n'oublie pas grand-chose. On fait seulement une sélection dans ce qu'on apprend. Et ce qui peut être enfoui dans votre mémoire profonde, qui n'apparaît pas, il faut aller le ressortir en faisant des associations. Mais il est certain que si j'avais appris beaucoup de langues lorsque j'avais 5 ans, je me débrouillerais mieux aujourd'hui.
Alors, cette plasticité est-elle infinie ?
Je le pense. Je le pense, c'est difficile à prouver. Je le pense, mais on a tous ces cas pathologiques, le mnémonisme d'un psychologue qui s'appelait Monsieur Luria, mais également tous les aspergères. Si vous avez vu le film Rain Man avec Dustin Hoffman, il y a des très jolis livres qui sont sortis maintenant d'aspergères, donc ces autistes savants, ces autistes intelligents. Donc il y a Daniel Tamer qui a écrit un livre qui s'appelle Je suis né un jour bleu, puis un livre qui n'est pas traduit en français maintenant, de Monsieur John Elder Robison, qui décrit sa vie d'aspergère et qui sont des gens qui ont des capacités extraordinaires, qui apprennent très facilement et qui... Et la difficulté, si vous apprenez beaucoup de choses et que tout se met dans votre cerveau, c'est qu'il faut quand même oublier les choses. Et donc, le fait de ne pas oublier les choses, c'est parfois gênant. Il y a des souvenirs dont vous ne voulez absolument pas vous souvenir.
Venons-en à plusieurs exemples. Il y a des études qui ont été réalisées, notamment sur les chauffeurs de taxi. Alors, les chauffeurs de taxi londoniens, précision. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consistait cette étude et ce qu'on a découvert à travers cette étude ?
Bon, mais vous savez qu'un chauffeur de taxi, il a une représentation spatiale dans son cerveau. Il a la carte de Londres ou la carte de Paris et il sait exactement comment aller d'un endroit à un autre. Vous-même, lorsque vous vous dites « je dois aller, je suis ici, je veux aller là », eh bien, c'est pas aussi évident de savoir quel va être le meilleur chemin. Vous aurez vos habitudes, vous avez vos propres repères, mais c'est pas aussi évident que ça. Et on sait que la carte, une carte physique, donc la carte topographique, eh bien, elle est représentée dans ce qu'on appelle une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Pourquoi l'hippocampe ? Parce que ça ressemble à un hippocampe lorsqu'on ressort cette région du cerveau. Alors, c'est dans l'hippocampe qu'il y a ces cartes topographiques. Et lorsque vous passez, c'est des expériences qui sont faites chez les rats, lorsque le rat passe à un endroit particulier, eh bien, il y a des régions de son hippocampe qui vont se mettre à être très actives. Il semble que ce soit peut-être la même chose pour l'homme. Et ces chauffeurs de taxi londoniens qui doivent se véhiculer dans... C'est très grand, Londres, comme vous savez. Hein. Ils ont la carte dans leur cerveau, et puis, je ne vais pas faire une analogie, si la carte de Londres est grande, c'est pour ça que leur hippocampe est grand. Non, c'est un peu simpliste, ce que je dis là. Mais on a remarqué que la région postérieure de leur hippocampe était beaucoup plus grande et plus grosse que les contrôles, que les gens qui ne sont pas chauffeurs de taxi. Tout ça pourrait être anecdotique, mais on sait que, par exemple, les basketteurs, ils ont une partie de ce qu'on appelle le cervelet, une partie qui est tout à fait derrière le cerveau et qui permet de contrôler la posture, qu'ils ont une partie de ce cervelet qui est plus grosse. Puis alors, les pianistes, ils doivent sans arrêt faire des connexions entre leur lobe gauche et leur lobe droit, entre leur main droite et leur main gauche, eh bien, on voit que la région qui unit ces deux lobes, ces deux hémisphères cérébraux, elle est plus grosse. Et puis tous les musiciens, généralement les musiciens qui passent seulement une oreille musicale, mais également il y a une motricité, le musicien doit utiliser ses deux mains pour faire de la musique. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que l'organisation d'un cerveau de musicien qui... D'un point de vue motrice, est plus développé, puisqu'il a des dextérités extraordinaires. Il entend également, il est capable de reconnaître une note de musique comme ça, boum, il vous dira, ça c'est le « la » du téléphone, bam, 444 Hz. Et donc il a également le plaisir d'écouter la musique. Et tout ça fait que lorsqu'on regarde son cerveau, eh bien on voit que son cerveau est différent de moi, par exemple, qui ne suis pas musicien.
Et ces régions du cerveau qui vont donc changer, parce que donc, la plasticité fait que ces régions vont évoluer, est-ce qu'elles diminuent lorsque ces personnes arrêtent leurs activités?
Alors, ça, c'est une très jolie expérience qui a été faite sur des gens jeunes qui avaient une vingtaine d'années, et on leur a demandé de jongler. Alors, on a pris d'abord leur cerveau avant qu'ils savent jongler. On a pris des gens qui sortaient, qui avaient fait des examens, qui n'avaient pas eu le temps de s'amuser beaucoup, qui préparaient des grandes écoles. Et puis, on leur a demandé, lorsqu'ils étaient entrés dans la grande école, mais maintenant, on va faire une expérience et on regarde votre cerveau aujourd'hui. Il est certainement très bien fait, puisque vous êtes entrés dans les grandes écoles françaises. Et après ça, on va maintenant vous apprendre à jongler. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, jongler avec des balles, c'est pas tellement une dextérité au niveau manuel, mais c'est surtout regarder les balles qui bougent et de suivre la balle qui bouge dans les trois dimensions de l'espace et d'arriver à la rattraper. Et ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que dans la partie occipitale, là où il y a les messages visuels, c'est là où vous avez vos cartes visuelles qui vont se faire, c'est là que tout va se passer, vous allez reconnaître les choses dans cette région occipitale. Et bien, dans une certaine de ces régions occipitales, qui est assez petite et qui permet de suivre l'objet en mouvement, et bien cette région qui s'appelle V5, enfin c'est visual numéro 5, et bien que cette région s'était développée durant l'apprentissage de la jonglerie. Alors bon, ben ça a augmenté, on est tout content. Au bout de 2 mois, les élèves, enfin les sujets ont cette région qui a augmenté. Alors on leur dit maintenant, interdit de jongler, vous n'allez pas montrer à tout le monde que vous savez jongler maintenant, et durant 1 an, vous ne jonglez pas et vous revenez. Et 1 an après, on voit que cette région est devenue de la taille précédente. Donc on voit que le cerveau, c'est comme un muscle en quelque sorte, vous l'utilisez et vous avez plus de cellules. On ne peut pas savoir si ce sont des cellules, si c'est plus de connexions, s'il y a plus de myéline. On ne connaît pas le détail de la chose parce que éthiquement, on ne va pas demander quand même à ces étudiants de prendre une partie de leur cerveau. Hein. On ne va pas faire des choses pareilles. Mais on ne connaît pas tout aujourd'hui, mais on sait que ces régions spécifiques d'une tâche particulière ont grossi. Alors votre question, dit Courtejoie, c'est de savoir si ça se fait aux dépens d'autres régions.
Eh bien voilà, vous m'avez enlevé la question.
Mais je ne peux pas vous répondre. C'est-à-dire qu'il est certain que s'il y a quelque chose qui grossit quelque part, comme ce n'est pas comme les muscles, hein, les culturistes, ils ont leurs muscles qui grossissent, ils ne prennent jamais que de l'air aux autres qui sont en face d'eux. Ils sont très impressionnés par tous ces beaux muscles. Dans le cerveau, évidemment, c'est dans la boîte crânienne. Donc on ne peut pas grossir plus. Voilà, donc,
vous ne pouvez pas répondre à la question
de savoir
si les basketteurs qui développent une aire particulière dans leur cerveau, est-ce que c'est au détriment d'une autre zone. Eh bien écoutez, on marque une première pause si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
découvrez un personnage original de l'histoire de la gastronomie, Alexandre Balthazar Grimaud de la Reynière. Célèbre pour son humour noir et ses fastes culinaires, il inventa les premiers guides gastronomiques. Retrouvez le docteur Jean Vito, vous détaillez la vie tumultueuse de Grimaud de la Reynière sur le site de Canal Academy, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Jean Rossier. Dans cette deuxième partie d'émission, Jean Rossier, nous allons évoquer le cerveau, gros consommateur d'énergie. Alors, on se doute, hein, quand on est étudiant, qu'on prépare le bac, qu'il faut avoir une alimentation à base de sucre lent pour pouvoir mieux peut-être réfléchir, préparer ses examens. Mais les études montrent que c'est avéré, le cerveau consomme beaucoup.
Oui, on ne le savait pas. Je rappelle que j'ai lu des choses où on disait le cerveau, ça consomme une cacahuète par jour, et voilà, et c'est tout à fait faux. Non, quand vous regardez le cœur envoie 20% du sang dans le cerveau, et ça sans arrêt. Donc le cerveau consomme 20% du sang qui sort du cœur, va au cerveau. C'est énorme. C'est énorme. Et quand vous touchez votre tête, bah, généralement, elle est chaude. Vous avez les pieds froids, mais votre tête, elle va être chaude. Donc, en fait, le cerveau, le sang qui arrive au cerveau, qui contient du sucre, ça va être consommé. C'est de l'énergie. Ça va être transformé en CO2, comme on sait aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est le cerveau qui est responsable de l'effet serre. Hein. Mais ça consomme énormément d'énergie. Et ça, on ne s'en rendait absolument pas compte. Jusqu'il y a récemment, où quand on a commencé à faire les bilans, on s'est dit, mais oui, mais le cerveau consomme beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Donc 20% de l'énergie est consommée par le cerveau.
Et alors, chose assez incroyable dans ces découvertes, c'est que la majorité de cette énergie est utilisée pour tout ce qui est inconscient.
Oui, alors ça, vraiment, on ne le savait pas du tout. Je ne veux pas faire plaisir aux psychanalystes, mais il est certain que l'inconscient, c'est quand même la partie la plus importante du cerveau. C'est 95% des activités, c'est de l'inconscient. Et on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Bien sûr, les neurologues, ils veulent, et tout le monde, tout est contrôlé. Non, tout n'est pas contrôlé et il n'y a que 5% de la consommation d'énergie qui est contrôlée. Lorsqu'on regarde toutes les images qu'on appelle d'imagerie par RMN, résonance magnétique nucléaire. Ce sont toutes les belles images du cerveau en action que vous avez vues sur les couvertures des magazines, où vous voyez un cerveau qui est coloré. Et par exemple, maintenant, moi, je parle et j'ai la région qu'on appelle la région de Broca, qui est à gauche sur la partie frontale. Eh bien, cette partie-là, eh bien, elle est activée parce que je parle, j'utilise mes muscles de ma bouche. Si on faisait une imagerie maintenant, eh bien, on verrait que toute cette partie-là du cerveau est très active. Et cette partie active, elle est en fait, c'est très faible. Les techniques aujourd'hui poussent la différence qui est de quelques pourcents seulement entre le niveau de base de mon lobe frontal qui maintenant est en train de travailler parce que je parle, eh bien, la différence qu'on va montrer dans la figure, dans l'image que vous allez voir, c'est une petite différence qui est très, très petite par rapport au niveau de base. Et donc, on la met en exergue, on montre que cette partie-là utilise plus d'énergie, utilise plus de sang. Donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la région qui travaille, il y a plus de sang et il y a plus de dissipation d'énergie.
Alors, pour revenir quelques instants sur ce qui est inconscient, 95% de l'énergie consommée irait à des tâches inconscientes, pour reprendre ce que vous disiez. Qu'est-ce que l'on met sur inconscient? C'est les souvenirs, par exemple, que l'on entretient? C'est les rêves? Qu'est-ce que c'est l'inconscient, en fait? Enfin, grande question, vous me direz. Hein,
mais... Oui, d'abord, la première chose, il faut que le cerveau puisse fonctionner. Et le cerveau est très ordonné. Le cerveau a mis des années à se former. Vous savez que l'enfant, le nouveau-né, ben il est pas capable de faire grand-chose. Il peut juste bouger les deux bras et les deux jambes d'une façon saccadée. Et il ne pourra commencer à faire des mouvements précis que lorsqu'il aura 5, 10 ans, même 15 ans pour les horlogers. Donc, le cerveau met énormément de temps à se construire. Et il est très, très, très ordonné. Et donc, pour se construire, d'une part, mais surtout pour garder cet ordre, il a besoin d'énormément d'énergie. Et c'est ça, en fait, sans doute, la raison pour laquelle on consomme tellement d'énergie, c'est pour garder l'ordre et d'éviter qu'il y ait du désordre. Si vous êtes physicien, on va vous parler d'entropie, eh bien, la capacité du cerveau à faire du désordre est immense. Et donc, il faut lutter contre cela pour garder l'ordre. Voilà pourquoi on consomme tellement d'énergie, d'une part. Pourquoi on consomme tellement d'énergie aussi, c'est que vous avez tous ces souvenirs, toute cette mémoire accumulée qu'il faut garder. Et là, on connaît très mal comment se garde la mémoire, comment est-ce que ce que vous avez engrangé un jour est encore là 20, 30 ans, 40 ans après, même jusqu'à votre mort. Et donc, on peut penser que cet inconscient cognitif, donc des connaissances, toutes les connaissances que vous avez accumulées, où on ne sait pas vraiment où tout ça s'est stocké, c'est vraisemblablement stocké un peu partout. Pour garder toutes ces connaissances, il faut que le système continue sans arrêt à être en action, ou qu'on répète les activités d'une façon tout à fait inconsciente. Donc cet inconscient cognitif est sans doute très, très important. Et puis, il y a tout l'inconscient des affects, de l'affection, des sentiments. Et tout ça, bon, ben, c'est l'inconscient qui est bien sûr étudié lorsqu'on est par les psychanalystes. Mais lui est également important et consomme également énormément d'énergie. Donc, toutes ces tâches-là font que le cerveau, pour garder son ordre, pour garder sa mémoire, pour pouvoir montrer son affection, son empathie pour les autres ou pour soi-même, tout ça consomme énormément d'énergie.
Et donc, du coup, les structures cérébrales ne sont jamais au repos ?
Jamais au repos. Le cerveau n'est jamais au repos. Si vous tentez de le mettre au repos, vous pouvez le faire. En pressant sur vos carotides, c'est le jeu du foulard un peu fou que font certains de nos adolescents, et bien à ce moment-là, vous savez très bien que vous allez perdre la conscience et que si ça dure trop longtemps, vous serez mort. Donc on n'arrête jamais le cerveau.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Jean Rossier. Dans la suite de notre émission, nous parlerons de l'interface cerveau-machine et puis nous parlerons également d'Olivier Sacks. À tout de suite.
Canal Academy vous propose une rétrospective sur les 7 vies de Prosper Mérimée en compagnie du biographe Pierre Pélissier. Le nom de Mérimée reste attaché aux monuments historiques dont il fut le deuxième inspecteur général nommé par Thiers. Il fut également membre de deux académies, les inscriptions et belles-lettres et la française, mais en vérité, il mena plusieurs vies. Pour en savoir plus, téléchargez dès maintenant cette émission dans la rubrique « En habit vert ».
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Jean Rossier, avec qui nous parlons de la neuroscience, 40 ans de neuroscience. Venons-en à quelque chose qui était encore du domaine de la science-fiction il y a une dizaine d'années et qui maintenant n'est plus du tout du domaine de la science-fiction, l'interface cerveau-machine. Ou comment, par exemple, faire fonctionner des membres pour les personnes qui auraient perdu l'usage de leurs mains, par exemple, faire fonctionner ses bras mécaniques ou ses mains mécaniques par le seul pourvoir de la pensée. Alors bon, avec des petites électrodes hein, quand même, ça se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, mais tout ceci n'est plus du domaine de la science-fiction, mais est bien réel. Ça, vous avez pu le voir se créer, Jean Rossier.
Oui, c'est très récent, ça remonte depuis une dizaine d'années. L'idée de pouvoir utiliser les ondes électriques du cerveau pour commander des membres artificiels, ça faisait partie, comme vous dites, Élodie, de la science-fiction à l'époque. Ce type d'idée a été au départ développé par les militaires américains avec la DARPA. La DARPA, c'était la recherche du futur, des choses qui étaient vraiment inconnues. C'était vraiment aller dans l'inconnu pour avoir la façon d'utiliser, de pouvoir faire la guerre pour finir. Les militaires, ils pensent qu'à faire la guerre et à se défendre. Pour pouvoir avoir des systèmes tout à fait extraordinaires que n'auraient pas, dans le cas de la DARPA, que n'auraient pas les Russes. L'idée, c'était par exemple de permettre aux pilotes d'avion de commander leur avion uniquement par la pensée. Vous savez que les pilotes d'avion, ils sont soumis à des jets, à des accélérations extraordinaires, et à ce moment-là, utiliser des commandes motrices de la main, eh ben ça, c'est lourd, c'est difficile. Et donc, ils disaient, mais si on pouvait simplement dire aux pilotes « tourne à droite, tourne à gauche », et qu'ils pensent de tourner à droite ou à gauche, ou qu'ils pensent de tirer son missile par la pensée, eh bien, on prend ça, et puis il n'y a plus de problème de contrôle moteur difficile dans des avions qui sont soumis à des accélérations énormes. Et donc ça, c'était l'idée de départ des militaires américains pour développer ce type de recherche. Alors ça a dépassé tout à fait les militaires. Aujourd'hui, en fait, l'idée de commander des membres, c'est superbe pour tous les hémiplégiques ou les paraplégiques, et je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans les 10 années qui viennent. Mais c'est également superbe pour l'industrie des jeux vidéo. vous avez vu le succès de la Wii. Eh bien, l'idée, c'est quand même un jour de mettre, c'est pas bien, mais je dis pas, mais de mettre un casque sur la tête des enfants ou des adultes et qu'on va prendre leurs pensées pour jouer aux jeux vidéo. Voilà, là, ça, c'est un futur qui n'est pas tellement lointain, je crois, parce que il y a énormément de gens qui travaillent sur les jeux vidéo et je pense que grâce aux avancées qui vont se faire dans les jeux vidéo, on va avoir beaucoup plus rapidement des systèmes qui permettront aux paraplégiques ou aux hémiplégiques de remarcher correctement.
Alors, si on aborde un petit peu la technique, comment le fait de mettre un casque, si on reprend l'exemple des jeux vidéo, comment le fait de prendre un casque va pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir marcher dans l'univers d'un jeu vidéo? C'est par l'intermédiaire de l'activité électrique du cerveau?
Oui, c'est par l'activité électrique du cerveau. Vous avez parlé de casque et tout à l'heure, on a parlé d'électrodes. Il est certain qu'il est très difficile d'envisager de mettre des électrodes profondes directement dans le cerveau d'un individu. Donc on va prendre les activités électroencéphalographiques que l'on prend maintenant déjà lorsque vous allez faire un électroencéphalogramme chez un neurologue, mais on va essayer de le prendre d'une façon aussi bonne que possible. Donc on va améliorer toutes ces techniques de captation de signaux. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que souvent on pensait que, bon, si vous voulez commander un membre, eh bien, il faut être dans ce qu'on appelle la région motrice qui commande le membre. Vous savez que lorsqu'on regarde le cerveau, il y a des régions, je vous ai parlé tout à l'heure de la région de Broca, eh bien, il y a des régions qui vont commander le membre supérieur droit et une autre région qui va commander le membre supérieur gauche, par exemple. Eh bien, ces régions-là, on pensait que c'était celles-là qu'il fallait aller enregistrer et prendre l'information qui venait de cette région-là pour pouvoir commander le membre, se substituer aux commandes du membre lui-même. En fait, on se rend compte que tout le cerveau participe à tout. On croyait qu'il y avait des régions spécialisées, et c'est vrai, il y a des régions spécialisées, mais on se rend compte que lorsqu'on prend de l'information ailleurs, des activités électriques ailleurs, on peut également utiliser ces informations pour contrôler un membre. Et c'est ce que fait Miguel Nicolelis, qui est dans mon laboratoire. C'est un chercheur qui est à la fois brésilien et américain, un très grand ami de Lula, et qui, pour l'instant, développe ce genre de système où il contrôle des membres, par exemple, de singes qui font des tâches compliquées. Et donc, le singe, pour finir, il n'a plus deux membres, il en a trois. Donc, on crée des commandes nouvelles. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette plasticité, on pensait que pour commander un membre, c'était dans une région du cerveau. On se rend compte que non, qu'on pourrait même dire que quand vous jouez au tennis, par exemple, eh bien, la position de votre raquette, eh bien, elle est vue par le cerveau et donc vous avez là rajouté une extension à votre membre. Et si certains tennisman sont aussi bons, c'est qu'en fait, ils ont la représentation de leur raquette dans leur cerveau et pas seulement de leur main.
Alors, on imagine bien toutes les applications possibles de cette technologie. Vous parliez du militaire au départ, mais surtout des paraplégiques, hémiplégiques, tout ce qui pourrait bénéficier aux personnes qui n'ont plus l'usage de leurs membres. Oui. Les jeux vidéo, est-ce qu'il y a d'autres applications possibles?
Par exemple, ce qui va se faire, je pense, assez rapidement, c'est parce qu'il y a des modèles déjà qui existent, c'est les voiturettes électriques, où en prenant l'information du cerveau et en disant « je veux tourner à droite » ou « je veux tourner à gauche », eh bien, la voiturette va tourner à droite ou à gauche, ou on dira « je veux l'arrêter », elle va s'arrêter. Et donc ça, c'est les informations du cerveau, mais ça va prendre un certain temps. C'est-à-dire que le cerveau, il répond à l'information extérieure. Il y a un va-et-vient entre la prothèse qu'on a rajoutée, j'appelle là la voiturette électrique par exemple, qui va envoyer des messages également au cerveau. Donc ça va être il y aura des retours, des allers-retours permanents, et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Et donc il y a un côté d'apprentissage pour utiliser cette nouvelle technologie d'interface cerveau-machine.
Alors pour terminer cette émission, pour les 5 dernières minutes de cette émission, nous avons parlé des progrès, des avancées. Venons-en aux pathologies curieuses, des curiosités, notamment à travers le livre d'Oliver Sacks qui date de 85, un ouvrage qui a maintenant quelques années derrière lui, mais qui reste toujours actuel, qui s'intitule « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », livre que vous aimez citer dans vos conférences. Pourquoi « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau »
Je parlais tout à l'heure de la cécité visuelle, les gens qui ne voient plus parce qu'ils ont leur cortex occipital qui a été abîmé. Donc vous n'avez plus d'image devant vous. Si vous regardez Mona Lisa, vous êtes incapable de voir Mona Lisa et de la recopier. Elle n'est plus là, elle n'est plus représentée dans votre cerveau. Donc vous n'avez plus de représentation d'image. Par contre, vous pouvez, devant, vous êtes au Louvre, vous voyez le tableau de Mona Lisa, vous allez dire « Ah, oh, qu'elle est belle !»« Ah, que ce sourire est intéressant !» Et donc vous aurez une perception de sentiment, vous allez aimer ou pas aimer, vous allez trouver ça beau ou pas beau, vous aurez cette perception qui n'est pas une représentation de point à point, qui n'est pas une représentation avec des pixels, en quelque sorte, mais c'est une question, une représentation de sentiment. Et donc, c'est ça la difficulté du cerveau, c'est que, et j'en parlais tout à l'heure avec l'inconscient, c'est que vous avez des tas de sentiments qui peuvent être rajoutés à l'image que vous voyez. Et donc, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau avait une cécité corticale, donc occipitale, il ne voyait plus, il voyait personne, mais il avait un sentiment pour les personnes. Et donc, c'était le sentiment qu'il avait. Alors, il pensait peut-être que c'était les rotondités du chapeau qui faisaient que sa femme était ronde et donc il prenait donc son chapeau pour sa femme et vice-versa. Donc, voilà un petit peu. Donc, il ne voyait pas, il était incapable de faire un dessin de sa femme, mais il savait qu'elle était là ou qu'elle n'était pas là.
C'est du domaine de l'agnosie visuelle ?
Tout à fait, tout à fait.
Vous parliez également, en préparant cette émission, du patient HM.
Oui.
Alors, qui est ce patient HM ?
C'est quelqu'un de tout à fait charmant, qui était destiné à avoir une très bonne carrière. Et puis, il a eu des crises d'épilepsie qui se sont répétées. Donc, il était un étudiant brillant, mais il ne pouvait plus apprendre quoi que ce soit. Il était vraiment dans une situation très difficile. Et un chirurgien, c'est à Montréal que ça s'est fait, l'a opéré et lui a enlevé, je vous ai parlé tout à l'heure des cheveux de taxi et de l'hippocampe, et bien lui a enlevé les deux hippocampes et des régions qui projetaient sur l'hippocampe. Et à ce moment-là, le patient n'a plus jamais eu de crise d'épilepsie, donc il était guéri, mais malheureusement, il était incapable d'engranger une nouvelle information. Là, par exemple, je suis en train de vous parler à la radio, et 2 minutes après ou 10 minutes après, je ne sais même plus que je l'ai fait. Donc je suis incapable de savoir. La mémoire immédiate a complètement disparu. Par contre, si vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'avais 20 ans, je vais vous raconter tout ce que j'ai fait à cette époque-là. Donc les souvenirs anciens s'étaient engrangés, et le patient HM ne savait même pas qu'il avait vieilli. Il n'avait aucune notion du temps. Il savait exactement ce qui s'était passé durant les 25 premières années de sa vie. Il pouvait vous raconter les promenades qu'il avait faites, mais il ne savait pas du tout quand ça s'était arrêté. Alors, on essayait d'améliorer ses performances dans la vie de tous les jours. Et donc, il avait une mémoire motrice encore. Donc, si on lui faisait dessiner des choses, eh bien, son dessin allait s'améliorer de jour en jour. Donc, il pouvait engranger de l'information, mais qui ne passait plus par son hippocampe, puisqu'il n'avait plus d'hippocampe. Et Brenda Milner, qui a maintenant plus de 80 ans, qui a travaillé sur ce patient durant des années, regrette d'ailleurs parce que ce patient vient de mourir. À 85 ans, il est mort. Mais donc ce patient HM, c'est un patient qui a permis de mieux comprendre comment fonctionnait le cerveau. Et ça, c'est vraiment très important en neurologie, c'est que beaucoup de ce qu'on connaît aujourd'hui en neurologie est venu par des accidents, par des maladies qu'avaient certaines personnes, des parties du cerveau qui avaient disparu. Et à ce moment-là, on se rend compte de l'importance de ces parties.
Alors, pour terminer donc, sur ce livre d'Oliver Sacks, il y a plusieurs essais qui portent sur plusieurs cas cliniques, hein, 24 pour être exact. On y retrouve les syndromes d'Asperger qui sont toujours impressionnants. On y retrouvera parfois quelques similitudes avec Reinemann, peut-être que le réalisateur ou le scénariste est inspiré de cette histoire. On y retrouve aussi d'autres cas cliniques, mais pour le coup, on invite nos auditeurs à ouvrir cet ouvrage, ce livre, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Au cours de cette émission, vous avez cité 2 autres livres. Je vous invite à redonner les titres et le nom des auteurs pour terminer cette émission.
Alors, Daniel Tamer pour « Je suis né un jour bleu », qui est, je crois, publié chez J'ai lu. Et l'autre qui vient de sortir, c'est édité aux États-Unis et ça s'appelle Look Me in the Eyes. Et l'auteur est John Helder Robison.
Et pour l'instant, encore non traduit.
Non traduit. Ce serait très bien de traduire en France parce que c'est un très bon livre.
Merci Jean Rossier, merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir donné ces éclairages et de nous avoir donné toutes ces explications passionnantes sur le cerveau, ses curiosités et tout ce qu'il reste encore à découvrir. Merci et à bientôt pour une prochaine émission.
Merci beaucoup, madame.